Cours de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe, le 29 mars 2001 à Saint-Jean-d'Arc.
Quelques petites questions encore sur l'être et le devenir. Ce sera sans doute le dernier cours là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on l'a compris, hein. Vous avez posé la question, est-ce que la connaissance métaphysique a des pieds d'argile à cause de la saisie de l'être dans le devenir? Le point de départ, cette fragilité vient-elle donc de notre manière de connaître, donc du mode, et non de ce qui est connu, c'est-à-dire l'être, donc la ratio? Très bien. Notre connaissance intellectuelle est dépendante de nos sens. Dépendante, attention, pas formellement, dans son exercice. C'est sûr, c'est comme ça que je peux arriver médicalement par des piqûres, arrêter l'intelligence et empêcher quelqu'un de répondre intelligemment. Je peux arrêter le rendre impossible l'exercice de l'intelligence. Je ne touche pas l'intelligence, je ne peux pas toucher l'intelligence. Comme le péché ne touche pas l'intelligence. Mais je suis paresseux. Et étant paresseux, je ne développe pas mon intelligence autant que j'aurais pu la développer. Alors, pied d'argile, hein, c'est évidemment parce que il y a la sensation et la sensation du toucher, ceci est. Et la sensation du toucher reste quelque chose de contingent. Je touche le devenir et j'atteins l'être. J'atteins l'être par l'intelligence. Je ne touche pas l'être. Si vous touchez l'être, vous comprendriez tout de suite ce qu'est la métaphysique. Mais vous touchez uniquement le contingent. Et vous cherchez, par l'intelligence, la saisie des principes de ce qui est. C'est-à-dire ce qui est premier dans l'être. Qu'est-ce qui est premier dans l'être? Au niveau de l'être, pas au niveau du devenir. Au niveau du devenir, c'est le point de départ du mouvement. Alors c'est très juste. Cette fragilité vient-elle donc de notre manière de connaître? Oui, de notre manière de connaître. Donc, du mode, même de notre manière de connaître, c'est pas tout à fait le mode, et non de ce qui est conçu, c'est sûr. Ce qui est conçu, c'est-à-dire ce qui est atteint par l'intelligence, c'est l'acte d'être. C'est l'exister du devenir. Et l'exister du devenir, c'est l'être. Alors, je ne saisis pas tout de suite la ratio entis. Hein. Ah non, je mets du temps. Pour saisir la ratio entis, il faut saisir les premiers de l'être, la substance, l'acte. Alors, je saisis par là la ratio entis. Parce que la rationalité, je veux dire, ce qui est premier dans l'être. Tandis que mon intelligence, elle saisit bien l'acte d'être, mais dans le mouvement. Alors, je peux réfléchir et arriver à distinguer. Mais je saisis la ratio entis dans un fluxus, pas comme ratio. Il faut du temps. Il faut faire toute la métaphysique pour réfléchir ensuite sur la ratio entis. Saisir la ratio entis est une attitude réflexive sur l'intelligence. Mais c'est tout à fait juste, c'est bien, c'est la manière de connaître et non pas de ce qui est connu, c'est-à-dire l'être. L'être est au-delà, il est dans le devenir, mais peut-être au-delà du venir, il est indépendant du devenir. Mais de fait, dans le monde physique, il est toujours lié au devenir. Il n'existe que dans le devenir. L'être de la pierre est un être contingent. La pierre est une réalité contingente. Elle résiste à la contingence du vent, de l'eau, c'est sûr. Mais progressivement, l'eau pénètre la pierre. Alors, vous distinguez bien, vous voyez, l'expérience et la saisie du jugement. Ceci est. Aristote fait une distinction entre ce qui est en repos et ce qui est immobile. Il dit que ce qui est en repos est mesuré aussi par le temps, comme ce qui est en mouvement. C'est ce qui est en mouvement qui est directement mesuré par le temps. Ce qui est en repos peut être vu. Alors, en tant qu'il est en puissance, il n'est pas mesuré par le temps. Il faut qu'il soit, qu'il existe pour être mesuré par le temps. Donc il est mesuré indirectement par le temps. C'est la quantité. La quantité n'est pas mesurée directement par le temps. C'est le mouvement. Comme ce qui est en mouvement. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le corps fait partie du devenir ? Oui, est-ce qu'on ne peut pas dire que le repos fait partie du devenir ? Le repos, c'est-à-dire le non-mouvement, c'est, au fond, en réalité, seul le vivant se repose. L'être physique ne se repose jamais. Il est toujours en mouvement. Mais un mouvement en acte ou un mouvement au ralenti et qui échappe à notre expérience immédiate. Il semble échapper au devenir, mais il est en devenir. La pierre est en devenir, mais elle semble échapper au devenir, puisque elle devient très lentement. Il faut combien de gouttes d'eau pour creuser la pierre ? Mais parce que elle est capable de devenir, elle est en devenir en puissance. Donc elle est liée au devenir. Mais le repos, seul le vivant se repose. C'est pour ça que vous aimez dormir. Parce que c'est une propriété du vivant. Vous vous reposez en dormant. Alors seul le vivant dort et se repose. grâce à l'immanence. Le devenir n'a pas d'immanence. Il est dans l'extension, partie après une partie. Donc il n'a pas de repos. Alors, on dit qu'il n'est pas mu au point de vue de la sensation. Quelque chose, cette table est au repos. Elle dort tout le temps. Elle est au repos. Mais en réalité, elle n'est pas au repos. Le bois travaille toujours. La preuve, c'est que si vous laissez ça, au bout d'un certain temps, ça ne tiendra plus. Les étoffes, c'est la même chose. C'est être artificiel, c'est bien, mais c'est la même chose. Ça a l'air durer, mais non, ça ne dure pas. Voilà. Je connaissais quelqu'un qui était très spécialiste en Suisse pour travailler les tissus et, en quelque sorte, les fortifier, leur permettre de durer plus longtemps. Alors cette personne connue, elle fait ça très bien. On l'avait demandé d'examiner la robe sans couture de Jésus, qui est à Aix, en Allemagne. Elle est sous verre. Alors, on l'avait enlevé sous verre et elle l'a touché. Elle m'a dit, en la touchant, elle échappait. Elle ne tenait plus. Alors, elle dit, impossible de la fortifier du dedans, la permettre de... Elle est trop usée. Alors, on l'a vite remis sous verre. Qu'on ne la touche pas. Et qu'elle reste comme ça. La robe sans couture du Christ. On croit que c'est ça, historiquement, ça semble bien. Elle est vénérée comme la robe sans couture. Hein? Ça m'a beaucoup frappé, et c'est à la fois touchant et en même temps. C'est comme si les souvenirs les plus sacrés s'usent, le temps. C'est comme ça qu'on le dit aussi pour le lieu de l'Annonciation. La pierre, depuis quelques années, s'effrite. Quand on la touche, elle tombe. Et on fait la même constellation pour le Parthénon. Parce que l'atmosphère est plus virulente que précédemment. Et puis aussi, il y a le temps. Même sans, si l'atmosphère reste exactement la même, le temps, ça ne dure pas tout le temps. Alors ce phénomène, c'est pas de la corruptibilité de tout ce qui est en devenir. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas de repos. Alors, le mouvement, le repos sensible, ce qui apparaît comme repos, ce qui n'est plus en acte d'une façon aussi forte, est-ce qu'on peut parler du devenir comme d'un principe. Le devenir est un fait, une manière d'être, un fait. Il est comme ça, c'est pas un principe. Alors, et donc que au-delà de mon intelligence ne peut pas aller. Regardez mon physique. Oui. c'est un fait d'expérience, objet d'expérience. Donc, il n'est pas principe. L'acte dans le devenir est fugas, fuxus. Alors, il est principe dans la mesure même où il est trait en acte. Il est principe par l'être en acte. Mais le devenir en lui-même est purement contingent. C'est la contingence, ce devenir. C'est quelque chose qui n'a comme être que le devenir, donc qui passe. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller, c'est très vrai, c'est ce au-delà de quoi je ne peux pas aller pour l'expérience. Le principe, c'est ce au-delà de quoi je ne peux pas aller pour l'intelligence. Mais il n'y a pas de principe du côté de l'expérience. Vous constatez la chose, vous la décrivez. Je décris le principe. Je décris le principe, je peux l'analyser. Ce n'est pas un principe, je peux l'analyser. Le devenir est toujours complexe. Le principe est indivisible. Donc ce n'est pas un principe. C'est quelque chose de complexe que je peux analyser. Comment je l'analyse, le devenir? En voyant le point de départ et le terme, puis le sujet. Tout devenir a un sujet. C'est le devenir de quelqu'un, de quelque chose. Tout devenir a un principe, un point de départ et un terme, et un sujet. Donc, le devenir s'étudie, s'analyse par trois points qui me sont donnés dans le devenir, mais qui ne sont pas le devenir. Le terminus aquo, ce que je quitte. Je suis assis. Je quitte cette situation pour me lever. Terminus aquo, la chaise sur laquelle je m'assis. Terminus ad quem, je quitte la salle. Ce qui meut, la personne humaine, l'individu, le corps. Mon âme quitte cette salle accidentellement. Pas elle-même, hein. Accidentellement, parce qu'elle est dans mon corps. Et c'est mon corps qui quitte la salle. Et tout mouvement peut s'étudier, terminus aquo, terminus ad quem, le point de départ qu'on quitte, et puis ce vers quoi on va, et le sujet, qui est sa cause matérielle. Et le sujet me fait comprendre la qualité de ce mouvement, l'existé de ce mouvement. Ce mouvement existe dans un sujet. C'est le mouvement de tel corps. Vous avez dit que le petit crapaud est plus d'être que le caillou, et que mon frère voisin est plus d'être, a plus d'être, oui, plus d'être que le crapaud. Et quand vous dites auprès de votre voisin, vous n'avez pas envie de dire un bon petit crapaud. Sur quoi? Ah, alors voilà la question. Ça, c'est. Sur quoi fonde cette différence des degrés d'être? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? Vous j'avais envie d'affirmer que le crapaud existe, parce que le crapaud existe, il a le même être que vous. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Moi, je vous renvoie la balle. J'irai l'expérience. Les degrés d'être, c'est l'expérience. Je vis en mangeant. Je vis en dormant. Je vis en sentant, en imaginant. Je vis en pensant. C'est l'expérience. C'est l'expérience directe. Vous n'avez rien avant, quoi. Et vous dites que l'être à un moment donné est mort. C'est encore l'expérience. Il ne vit plus, il ne mange plus, il ne respire plus. Donc, et vous dites qu'il est mort. Mort selon la constatation d'expérience. Quand l'âme quitte le corps, vous ne pouvez pas le savoir. Mais vous pouvez savoir que, selon l'expérience, la constatation, il ne vit plus. Tant qu'il respire, il vit. Mais à un moment, il ne respire plus. Ben, c'est la constatation, ça. La constatation que vous faites tout le temps. Quoi. Donc, on constate que le crapaud est un vivant, est vivant parce qu'il mange, parce qu'il bouge, parce qu'il mord. Hein? Constatation. Et vous constatez des êtres, la pierre, elle ne bouge pas, elle ne mange pas. Constatation. Or, vous constatez que de fait, se nourrir ben, implique quelque chose de plus grand, puisque ce qui est extérieur à moi devient moi. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, ça. Tandis que la pierre, vous pouvez mettre une pierre au-dessus, mais la pierre ne mange pas la pierre. Non, elles sont juxtaposées. Alors vous pourrez voir qu'en effet, une pierre qui semble très solide, vous mettez une autre pierre beaucoup plus grande. Ça, c'est vrai. Donc, il y a des choses plus ou moins denses, plus ou moins lourdes. Il y a la vie qui apparaît. Et l'intelligence qui apparaît, et tout ça existe. L'exister est plus parfait, parce qu'elle a des opérations que n'a pas l'autre. Les degrés de vie, ça repose sur les diverses opérations. Et vous voyez qu'un degré supérieur de vie a des opérations qu'un degré inférieur de vie n'a pas, c'est l'expérience. Alors, ordinairement, on va très vite pour affirmer ça, mais ça a mis longtemps pour vraiment arriver au degré de vie. Et vous y repensez tout le temps. Vous avez en vous, la vie végétative. Vous poussez comme un arbre. En vous, la vie sensible. Elle est multiple, diverse. En vous, la vie intellectuelle, spirituelle. Et après, rien au-dessus. Et vous posez la question, est-ce qu'il y a un être qui est plus parfait que mon intelligence? Et pour ça, vous dites, étudions ce que c'est que l'être, la métaphysique. Vous avez commencé par étudier le devenir physique, puis le vivant, puis l'être. Normalement, et c'est toujours l'expérience. Vous revenez toujours à l'expérience. Et de l'expérience, vous arrivez à saisir des principes. Donc, selon l'expérience, le crapaud, c'est bien un vivant. Un petit vivant. Vous acceptez quand même que la vache est un vivant plus grand que le crapaud, que l'éléphant est un vivant plus grand, il dure plus longtemps. Il dure plus longtemps. Et tout ça, c'est l'expérience. C'est pas du tout des a priori. Ça relève de l'expérience. Alors, peut-être que pour vous, c'est un a priori, parce que vous n'avez pas eu assez d'expérience. Quoique, pour la différence entre le crapaud et l'homme, c'est relativement facile de voir que l'homme a quand même une vie plus grande que le crapaud. Il a des opérations vitales plus importantes que le crapaud. Donc, il a plus de vie. Et donc, il a plus d'être. Donc, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela au niveau de l'être strict? Tous les trois existent, c'est sûr. Même, ils diffèrent l'un de l'autre dans leur manière d'être. Oui. Quand vous disiez cela, je ne comprends plus la distinction entre exister et manière d'être. La manière d'être implique les opérations. Le pos, c'est la manière d'être. C'est quelque chose d'existentiel que vous pouvez expérimenter tout de suite. L'être, c'est quelque chose de plus profond. C'est quelque chose qui est non pas sa manière d'être, mais qui est en lui-même premier. Vous saisissez l'analogie. L'être se dit de multiples façons. C'est le premier moment de l'analogie. L'être du crapaud n'est pas votre être. L'être du crapaud est différent de l'être de la pierre. L'être se dit de multiples façons. Vous voyez, premier moment de l'analogie, c'est pour l'être. La bonté se dit de multiples façons. La bonté du cheval, la bonté du crapaud, la bonté de l'homme. Ce n'est pas la même chose. Et c'est toujours bon. Et c'est toujours être. Vous voyez les modes différents. Donc, ils diffèrent selon leur mode, leur manière d'être, et ils sont un dans leur être. Vous arrivez petit à petit à saisir ce que c'est que dire la ratio endis. L'être qui lui-même se différencie dans ses diverses réalités. Il faut tout le temps venir à ça. L'analogie de l'être. L'être se dit de multiples façons. Bon. Nous allons continuer de voir comment l'être est connu en premier lieu, et je dis bien comment il est connu en premier lieu à partir du jugement « ceci est ». Ceci qui devient existe. Ceci qui est en mouvement, il est. donc, dans une vision métaphysique, je vois que l'être en acte, d'une manière ultime et dernière, est dans le devenir. L'être en acte, mais donné en premier lieu dans cette manière la plus pauvre d'être, la plus pauvre, le devenir. Et en ce sens-là, je ne peux pas aller au-delà. Il n'y a pas d'être plus débile que le devenir. C'est la forme d'être vraiment la plus débile. Et donc, je dois arriver à distinguer dans ce monde du devenir, ce monde physique du devenir, arriver à distinguer l'être. J'ai donc l'être en acte à l'état pur dans l'analyse de l'être, de ce qui est en tant qu'être. Je distingue l'être en acte de l'être en puissance. Je recherche l'être en acte dans l'intelligence, dans la vérité. Je recherche l'être en acte dans la bonté. Je recherche l'être en acte dans les opérations vitales. Je recherche l'être en acte dans le devenir. Vous avez 5 modalités à travers lesquelles vous saisissez l'être en acte. Vous n'avez pas d'autre. Cherchez, vous n'avez pas d'autre. Vous voyez, c'est curieux, hein? 5 voies d'accès vis-à-vis de Dieu. 5 modalités de l'acte. Vous voyez en effet qu'il y a 5 modalités comme point de départ de remonter jusqu'à Dieu, puisque je saisis l'être en acte selon ces 5 modalités. Et il n'y a pas d'autre. Quand on me dit la 6e preuve de l'existence de Dieu, je cherche. C'est Maritain qui dit ça. La 6e preuve de... Il prend le temps. Mais le temps. Comment le temps existe-t-il? Le temps. Comment il existe? Parce que ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une 6e voie? Une sixième connaissance de l'être en acte dans le temps. Est-ce que, autrement dit, je pose la question, est-ce que par le temps, vous avez une nouvelle voie d'accès pour entrer en métaphysique? Maritain dit ça, donc il y a peut-être quelque chose d'intéressant. C'est vrai, le temps, c'est psychologiquement, le temps est quand même quelque chose de très intéressant. Alors, il faut vous poser la question, qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps, comment existe-t-il? Le passé, il n'existe plus. Vous pouvez le repenser. Et aujourd'hui, c'est à la mode. On repense. La relecture, hein, c'était très à la mode. la relecture de votre vie. Vous pouvez actuellement relire tout ce que vous avez fait depuis votre berceau. Et quelquefois, avant votre berceau, quand vous étiez dans le sein maternel. Une relecture. Mais est-ce que le temps existe en acte dans le passé? Non, le passé n'existe plus. Est-ce qu'il existe dans le futur? Non, pas encore. Qu'est-ce qui existe dans le temps? L'instant présent. Maintenant que je vous parle, il a existé au point de départ du cours et au terme. Mais ces deux moments-là n'existent pas. Ce qui existe, c'est l'instant présent. Ah, l'instant présent. Mais l'instant présent mesure l'être en acte du devenir. Alors, qu'est-ce qu'il m'apporte de plus? Qu'est-ce qui unit le passé et l'instant présent? L'instant présent et le futur. Qu'est-ce qui unit ça? C'est mon intelligence qui fait une relation entre le passé, le futur et l'instant présent. Et si je suis conscient de ça, je fais une différence, je vois autre chose. Et de vous parler de ce que je vois maintenant, de ce que j'ai vu et de ce que je verrai. Je vous le dis, hein, je ne considère pas du tout que le passé c'est l'instant présent et que le futur c'est l'instant présent. Quand vous commencez à confondre l'instant présent et le passé, vous dites, tiens, ça ne va plus très bien. Quand vous confondez le futur et l'instant présent, ça ne va plus très bien. Il y a un réalisme perdu. Il n'y a que l'instant présent qui existe. C'est l'intelligence qui met en relation le passé et l'instant présent et le futur. Le temps n'existe que grâce à l'intelligence. S'il n'y avait pas l'intelligence, qu'est-ce qu'il y aurait? Il n'y aurait pas de temps. Vous voyez, c'est très intéressant ça. Parce que ça prouve que le temps est le lieu de rencontre de l'idéalisme et du réalisme. Ah, tiens. Tout de suite. Le réalisme considère que seul l'instant présent existe. L'idéalisme, tout ce que l'intelligence pense est. Or, l'intelligence construit le passé, construit le futur. Et donc, tout ça existe. Est-ce que ce n'est pas l'erreur constante qui guette l'historien? Considérer que le passé existe. Le passé, le passé. Le futur, le futur. Le prophète considère le futur comme actuel. Il en est tellement sûr. Alors, il peut en être très sûr, mais alors il doit dire, prophétiquement, je peux vous affirmer ce qui va arriver. Je l'affirme en m'appuyant non plus sur mon expérience, mais sur celui qui m'inspire. l'envoyé de Dieu peut prophétiser. Et il sait qu'il prophétise. Et il voit ce qui va arriver. Il le voit grâce à sa connaissance divine, parce qu'il est inspiré. Le passé peut être présent pour lui dans une vision divine. Pour Dieu, pour Dieu, y a-t-il un passé ? Y a-t-il un futur ? Y a-t-il un instant présent ? Pour Dieu, tout est vu dans son éternité. Et saint Thomas nous dit, l'éternité, nous pouvons en quelque sorte l'imaginer en regardant un instant présent qui subsiste. L'instant présent est fugace, il passe tout de suite. Puisque quand je parle, il est au moment où je parle, et puis dès que j'ai fini de parler, il n'est plus. C'est vrai, ça. C'est l'intelligence qui maintient le passé et l'instant présent, qui regarde le futur et l'instant présent. C'est l'intelligence. Quand il n'y a pas d'homme sur la terre, y a-t-il un temps ? Le préhistorique, qu'est-ce que ça signifie ? Il n'y a que l'éternité et puis le monde physique. C'est curieux, hein, ce préhistorique. On a besoin de projeter, je dis bien imaginativement, le préhistorique. Mais c'est une projection que je fais. Ce n'est pas du tout la réalité. Je n'en sais rien sur la réalité. Alors je dirais, les pierres, quand même, ont certains réflexes, certaines irradiations. Et je peux par là mesurer le temps avant l'homme. Non, je ne le fais pas. C'est moi qui invente ça. Donc, l'existence du temps. Partez de ce point de vue. Quelle est l'existence du temps ? Puisque Maritain nous parle de la sixième voie par le point de vue du temps. Quelle est l'existence du temps ? Jugement d'existence. Est-ce qu'il y a un jugement d'existence propre au temps ? Ça, c'est une très bonne question. Je vous demanderai de la résoudre, hein ? Chacun. Quelle est l'existence du temps pour vous ? Est-ce qu'on peut partir du temps pour prouver l'existence de Dieu, l'Éternel ? Est-ce que le temps appelle l'éternité, comme le mouvement appelle l'immobile ? Y a-t-il une sixième preuve de l'existence de Dieu, comme le dit Maritain ? Et ça vient de là, je vous ai dit, ces cinq modalités de l'être en acte me donnent cinq points de départ pour prouver l'existence de Dieu. Et les cinq voies de saint Thomas reposent sur ces cinq modalités, cinq expériences différentes de l'être en acte. Alors, y a-t-il pas une sixième ? Vient compléter saint Thomas, une métaphysique du temps. Je vous laisse le soin de résoudre ce problème. ça en vaut la peine. Et ça existe, puisque Maritain l'a dit. Donc, si Maritain ne l'avait pas dit, on pourrait l'inventer et se poser la question. Mais puisque Maritain l'a dit et qu'il s'est appuyé sur ça pour donner une sixième preuve de l'existence de Dieu, par le point de vue du temps, je pose la question, est-ce que cette sixième voie est réelle? Ou est-ce que cette sixième voie est la valeur, l'intelligence? La valeur du temps, c'est de dépendre de l'éternité. Tiens. Parce que le temps, il existe grâce à l'intelligence humaine. Il n'existe pas dans le monde physique. Le temps n'existe pas dans le devenir. Il n'existe pas dans l'opération vitale, c'est la durée. Le vivant dure. L'esprit est au-delà du devenir. Il est immuable. Et Dieu est éternel. Alors, vous devez inventer que le temps, ah oui, il existe. Est-ce qu'il existe vraiment le temps? Il existe dans l'instant présent. Dans l'instant présent, il existe dans l'acte d'être, du devenir. C'est l'instant présent. Donc, il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu par le temps autre, distincte, que celle qui part du devenir, du désir physique. Ça se ramène au devenir physique. Et le désir physique me montre qu'il y a nécessairement un être immobile. Et cet être immobile est au-delà du temps. Dans un être immobile, il n'y a pas de temps. Alors, il faut essayer de bien saisir ça. Il y a cinq modalités différentes de l'être en acte. Ces cinq modalités me montrent l'analogie de l'être. L'être en acte contient le vrai, le bien, l'opération vitale, le devenir. L'être en acte contient cela, ces cinq modalités. Mais pour mon intelligence humaine, ces cinq modalités peuvent être le point de départ d'une réflexion qui me permet de poser un absolu immobile, un absolu au-delà de l'immanence de la vie, un absolu nécessaire au-delà de la contingence, un absolu au-delà des valeurs, du plus et du moins, un absolu dans l'amour et au-delà de l'amour.